Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée, même si elle fut chaude et ensoleillée, et que vous êtes maintenant au frais, peut-être dans votre jardin, à humer les odeurs que votre terre dégage ici et là en France, ou au frais chez vous, dans votre cuisine, dans votre salle à manger, peut-être déjà dans votre chambre ou dans votre salle de bain à vous démaquiller, en tout cas. Sachez que nous sommes pendant 2h30 ensemble, chers amis, et que vous le savez, cette libre antenne, c'est vous qui la faites à travers les témoignages que vous avez décidé de nous livrer chaque soir. 39,21, 50 centimes d'euros la minute, 7,39,21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace pour vos messages que vous n'oubliez pas de signer, et puis vos mails à l'adresse suivante, libreantenne@europe1.fr. Notre groupe Facebook, 16 022 membres, ça y est, nous avons franchi la barre des 16 000. Merci pour votre fidélité. Et puis, sur ce groupe Facebook, vous pouvez écrire à Julia et à Florian en message privé, et ces deux jeunes gens vous rappelleront dans les plus brefs délais. Ils sont là, tous les deux. Ils sont en régie, accompagnés de notre réalisateur Laurent Pellet ce soir, comme tous les soirs. L'équipe de la Libre Antenne est au grand complet et prête à vous accueillir. Votre Libre Antenne du mercredi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et à 22h35, pour débuter cette émission, nous accueillons Alba au 39-21. Bonsoir Alba.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Quel âge avez-vous, Alba, et d'où nous appelez-vous ?
Alors, j'ai 36 ans et je vous appelle de l'Est de la France.
D'accord. Alors, vous allez nous parler de quoi, Alba ?
Alors, je vais vous parler d'un combat que j'ai mené ces dernières années.
Oui.
Un combat qui a été très difficile contre mon moniteur d'équitation, pardon.
Oui.
Qui a été mon violeur, agresseur sexuel pendant de nombreuses années. Et qui nous a conduit l'année dernière à un procès d'assises au cours duquel on était 5 victimes sur le banc des parties civiles.
Oui.
Voilà. Et ça a été le combat de ma vie.
Le combat de votre vie qui est loin d'être fini. Vous allez nous parler bien évidemment de ce combat. J'espère que vous allez nous dire que vous avez gagné en partie, en tout cas du point de vue de la justice. On va évoquer avec vous cette emprise que des entraîneurs, des moniteurs, des éducateurs exercent, ont vraiment le toupé, je dirais, en tout cas, je ne sais pas comment on peut appeler ça. J'ai vu sur France 2 la semaine dernière le documentaire qui était consacré à Sarah Abitbol, la patineuse artistique, vous savez, qui a été victime de son entraîneur. Et c'était saisissant de voir l'état comment dit-on quand on est choqué, quand on est sidération, voilà, merci sidération. Julia. L'état de sidération, en fait, dans lequel tout de suite, vous victime, vous rentrez, et que le prédateur semble saisir instantanément, parce que vous allez nous raconter donc dans quelles conditions ce moniteur vous a agressé. Quel âge aviez-vous lorsque vous rencontrez ce moniteur ?
Je le rencontre, j'avais 14 ans.
Oui.
Dès le début, comme toutes mes petites camarades d'équitation, on était un peu toutes amoureuses de notre moniteur, parce que c'était un homme de à peu près 25 ans, charismatique, qui roulait les mécaniques. Enfin voilà, il faut savoir que dans le monde de l'équitation, le moniteur, il est vraiment vénéré.
Oui.
Et ça, c'est quand même quelque chose d'important à prendre en compte.
Est-ce qu'il y a un petit peu ce réflexe de moniteur de ski, là, qui explique la vie à tout le monde, qui sait tout sur tout ? Vous voyez ce côté, ce côté un peu, je roule des mécaniques parce que je sais tout, et toi, tu vas apprendre de moi.
Ouais, c'est même au-delà de ça. Moi, j'ai vécu le moniteur agressif dans son enseignement.
Oui.
violent dans ses mots, le moniteur qui me tapait sur les fesses pour monter à cheval, enfin voilà, les gestes déplacés, voilà, l'équitation, pour moi, c'est ce souvenir, hein. C'est difficile, ouais. Mais c'est ce souvenir-là.
Un moniteur autoritaire, donc.
Ouais, ouais. Et à 15 ans, c'est là qu'a commencé le jeu de l'emprise.
Oui.
Puisqu'il a compris que j'étais déjà un peu sous son emprise et que la manipulation a commencé par un premier baiser échangé dans un box. Ça m'a mis dans un état de sidération, je crois, parce que je ne m'y attendais pas du tout à ce
d'accord,
baiser.
D'accord, parce qu'il voilà. vous a embrassé, vous n'avez pas échangé voilà. de baiser.
Non,
d'accord.
Il m'a embrassé et très fortement. C'était, je crois, le deuxième baiser de toute ma vie.
D'accord.
Voilà, j'avais 15 ans. Et plus tard, mes parents ont entendu parler de ce baiser. Et ils m'ont protégée à leur manière, c'est-à-dire qu'ils m'ont retirée pendant quelques temps du centre hippique pour me protéger.
Vous leur, avez dit, vous leur avez dit ?
Ouais, en fait, je m'étais confiée à mon grand frère.
D'accord.
Mais vraiment comme une petite fierté, oh, y a un grand qui est amoureux de moi, quoi. C'était vraiment comme une enfant, en fait, qui raconte à son grand frère sur le ton d'une certaine fierté enfantine. Et puis, finalement, mes parents ont accepté de me remettre au centre hippique parce qu'eux n'ont pas du tout imaginé ce qui s'y jouait vraiment. En fait, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui se dit aujourd'hui.
Oui.
Il n'y avait pas cette parole libérée.
Oui,
hein.
Oui, oui.
Donc, ils ont accepté parce que je les ai suppliés. J'avais toutes mes amies, j'avais ma vie, en fait.
Oui,
j'étais
oui.
à deux, j'avais 15 ans et à 15 ans, on se structure comme ça autour de ses amis et de ses activités.
Et puis, suppose que l'équitation... qui dit équitation, donc les chevaux, y a une vraie passion pour les chevaux, sans
exactement.
Doute.
Ouais. Une énorme passion, c'est dévorant, ça prend toute la place, en fait.
Ouais.
Et en fait, à partir du moment où ils m'y ont remis, très rapidement, Sébastien a repris la main sur moi, jusqu'à aller à l'acte grave du viol. Je venais d'avoir 16 ans.
Oui.
Et je ne m'y attendais pas. En fait, je m'attendais à peut-être un baiser, mais je ne m'attendais pas à être violée dans un vent. Excusez-moi, c'est un petit peu...
Oui.
Voilà, il y a de l'émotion. mais voilà, donc à 16 ans, ça a commencé. Je n'ai pas été la première. Il y avait d'autres victimes avant moi.
Oui.
Il y a eu plusieurs jeunes filles de 12, 13, 14 ans qui ont été à mes côtés, partie civile, qui m'ont soutenue, qui ont suivi ma démarche de plainte.
À l'époque, vous ignoriez toutes les unes et les autres le comportement de cet homme ? Ou est-ce que vous aviez échangé
non.
un peu entre vous ?
Non. C'est assez, justement, c'est là qu'on voit toute l'emprise de l'enseignant d'équitation et de l'enseignement, enfin, du moniteur de sport, en fait. C'est qu'on se confiait, on savait plus ou moins ce qui était arrivé à l'une à l'autre, presque avec une fierté, c'était vraiment presque avec une fierté enfantine, en fait. On se racontait ce qu'il nous avait demandé, parce qu'en fait, si, par exemple, il disait « je suis votre moniteur d'éducation sexuelle », pardon. Il nous disait ça, en fait, à nous, on avait 12, 13, 14, 15, 16 ans.
D'éducation sexuelle.
Ouais, je serai votre moniteur d'éducation sexuelle. Et il nous disait, il nous expliquait comment faire une fellation en nous disant « c'est comme une glace esquimau ».
Quelle ordure.
Voilà. Voilà, ça a été vraiment difficile. Un combat difficile jusqu'à l'année dernière où on a pu faire face à lui dans une cour d'assises. Et ça a été extrêmement difficile, mais en même temps extrêmement libératoire.
Oui, libérateur.
Ouais,
et
voilà, ouais.
Comment en êtes-vous arrivé au cheminement qui vous a mené jusqu'aux ouais. assises ? Parce que c'est important que vous nous racontiez... Quand la parole se libère et à quel moment et dans quelles circonstances ?
Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je suis restée sous l'emprise de cet homme jusqu'à mes 25 ans, puisque, j'ai été élevée dans une éducation catholique,
oui.
Dans laquelle, pour moi, le premier homme de ma vie serait le dernier homme de ma vie.
Mmh.
Et le premier homme de ma vie était ce prédateur sexuel. Et j'ai donc tout fait pour que ce prédateur sexuel devienne mon amoureux.
D'accord, vous étiez amoureuse de lui.
J'ai cru être amoureuse de lui, oui. J'ai cru, bien sûr, évidemment, ce n'était pas ça. Et j'ai tout fait pour que finalement, un jour, je sois sa copine.
D'accord.
Officielle, voilà. Donc je suis restée sous son emprise pendant 10 ans, pardon. Et on s'est mariés.
Vous êtes mariés.
Je me suis mariée avec mon prédateur, oui.
D'accord.
Et je l'ai quitté après beaucoup, beaucoup d'essais, parce que j'ai essayé de partir trois fois au moins. Je ne savais pas pourquoi je partais. Je partais parce que je savais qu'il fallait que je m'en aille. Je savais qu'il fallait que je fuis, en fait. Mais je ne savais pas pourquoi.
Vous pressentiez, Alba, que vous étiez mariée à un prédateur, en fait, et que même s'il était marié avec vous, il a continué visiblement d'agresser d'autres jeunes filles.
Oui, il a continué, j'en suis personnellement convaincue, parce que quelques années après le début de notre relation officielle, il est devenu normal dans sa sexualité, et j'étais devenue une petite femme, et je ne lui plaisais plus, en fait, et du coup, il a eu une sexualité plutôt normale avec moi. Et j'ai su, je savais au fond de moi que c'était parce qu'il y avait ailleurs autre chose. Et j'ai eu beaucoup de mal à grandir, d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de mal à devenir une femme. Ça a été pour moi aussi le grand défi de ma vie, de devenir une femme. Parce que quand on est sous l'emprise d'un pédophile, parce que c'est le mot que maintenant j'emploie, parce que quand on a 12, 13, 14, 15 ans, on est des enfants. Et donc quand on est sous l'emprise comme ça d'un pédophile, on ne peut pas devenir une femme. Et c'est très difficile de s'en libérer. Voilà. Donc j'ai fini par réussir à le quitter à 25 ans, quand j'ai commencé à avoir envie de devenir maman. J'ai décidé de m'en aller. J'ai réussi. Alors j'ai fui, je suis partie avec rien. J'ai fui notre maison commune, vraiment, comme je me serais évadée de prison. J'ai coupé les ponts, mes amis interceptaient les mails. Enfin, il ne fallait plus que j'ai aucun contact. J'ai senti que c'était vital que tout soit coupé avec cet homme.
D'accord.
Et je suis partie. J'ai eu la chance de rencontrer très rapidement un homme très fort qui m'a tenue pour ne pas que j'y retourne, je crois.
Vous étiez vraiment sous l'emprise de cet homme.
Hein. Une emprise... énorme.
Il vous relançait lorsque vous partiez.
Oui, il me menaçait de se suicider. C'est un avocat, voilà, qui me menaçait de se suicider. Et puis, comme j'étais une enfant, elle croit l'adulte qui l'a toujours encadré, parce que c'était mon encadrant. Hein. J'ai fait mes études avec lui, qui m'accompagnait faire mes études, qui venait me chercher à la sortie de l'école. Enfin, c'était vraiment une relation. Inadapté, vraiment inadapté.
Et j'ai l'impression, en vous écoutant, que l'enfant, en tout cas l'adolescente, s'est figé lors de ses premières agressions, en fait, et que cette emprise, finalement, elle est venue comme ça. Elle est venue cet aspect figé des choses, que la sidération dont on parlait, elle ne vous a jamais quitté, en fait.
Ouais, en fait, J'ai écrit un livre récemment, du coup je vous en parle maintenant parce que justement c'est important par rapport à ce que vous me posez comme question, qui s'appelle « Dissocier », que j'ai écrit donc Alba Meulier, et dans lequel je raconte justement le moment de ma vie où je suis morte à l'intérieur de moi, où je suis partie, où j'ai quitté mon corps en fait.
Oui.
Et ce moment, c'était le premier viol que j'ai subi. J'ai eu la sensation de partir de mon corps et de mourir. Et depuis ce temps-là, je pense que je suis restée dissociée jusqu'au procès, où j'ai eu cette sensation de retour d'un retour de la petite fille de 16 ans que j'avais laissée mourir dans une tabulation. Voilà, prise au piège et violée par son moniteur d'équitation.
Ce retour à la vie, en fait, et cette envie de se révolter Il se déclenche à quel moment de votre vie?
Alors, il se déclenche à la naissance de mon premier enfant.
Oui.
En fait, ça a été extrêmement douloureux. L'accouchement de mon premier enfant a été d'une douleur incroyable, au point que les sages-femmes m'ont dit « Mais on n'a pas compris votre douleur parce que tout se passait bien, tout allait bien et vous avez exprimé une douleur qu'on a rarement connue. » Et en fait, j'ai compris plus tard qu'à ce moment-là, en fait, par la naissance de mon fils, qui passe forcément par l'endroit où j'ai été souillée, j'ai à la fois rencontré l'amour infini,
oui.
Et à la fois, on a mis en lumière mon corps qui a été souillé, en fait,
oui, oui.
Par ce prédateur. Et là, ça a été l'explosion. J'ai ouvert la boîte de Pandore, parce que j'appelle ça la boîte de Pandore.
Oui.
Et je me suis retournée sur mon histoire en tant que maman, en tant que femme adulte pour la première fois de ma vie. Et je me suis dit, il est temps que ça s'arrête. Parce que si toi, tu ne l'arrêtes pas, personne ne l'arrêtera. Il avait sa propre écurie, il avait développé son activité. Il était entouré de jeunes albas, en fait. Il était entouré de potentielles victimes. Et pour moi, c'était plus possible de laisser faire. Il fallait que je parle à tout prix, même au prix de ma vie. Enfin, parce que je vous savais que quand on décide de se lancer dans un combat comme celui-ci,
il est périlleux.
Il est périlleux et surtout quand on a été marié.
Oui, oui, oui.
Quand on a été, voilà, on est vraiment montré du doigt, on est accusé de jalousie,
ben
on
oui,
est accusé
parmi,
de.
Parmi les autres victimes, de toutes les victimes, vous étiez celle. Mmh. Sans doute qu'on a montré le plus du doigt et celle dont on a remis le plus en question la parole.
Oui, sauf au procès.
Sauf au procès, d'accord.
Ouais.
Alors, vous allez m'expliquer ça parce que vous décidez donc de porter plainte à la naissance de votre premier enfant.
Oui, un petit peu après, oui.
Un petit peu après. Comment les autres victimes vous rejoignent-elles?
Alors, en fait, ma première démarche, ça a été de contacter deux d'entre elles, juste pour sortir de cette sidération dont vous avez très justement parlé tout à l'heure. J'avais besoin d'entendre que ce que je me souvenais, c'était vrai. Et elles m'ont confirmé, toutes les deux, Coralie et Sarah, elles m'ont confirmé, oui, on a vécu ça, oui, mais on s'est tu. On s'est tu. Et après, j'ai décidé d'écrire une lettre au procureur sans même les prévenir. Je voulais tout dire, sans aucun esprit de dissuasion. Je ne voulais pas qu'on me dise « ne parle pas de moi, de ce que tu sais de moi ». En fait, c'était un peu égoïste, mais en même temps, je ne voulais pas mentir, je voulais tout dire. Donc j'ai pris un papier, un crayon et j'ai écrit une lettre au procureur de la République pour raconter mon histoire et dénoncer. Et ensuite seulement, j'ai prévenu les autres victimes parce qu'on est cinq. Donc j'ai prévenu les quatre autres, dont deux qui n'étaient pas encore au courant. Elles ont toutes très bien réagi. Elles ont toutes été à mes côtés. On a toutes été à nos côtés parce que c'est pas mon combat, mais c'est notre combat. Et elles ont été toutes extraordinaires parce que sans elles, déjà, j'aurais eu du mal à être entendue. Je pense qu'on m'aurait remise en question du fait de ce mariage, du fait de ces 10 années passées avec cet homme. Et grâce à elles et à leur soutien et à leur courage, parce qu'elles ont été monstrueuses de courage, et je veux vraiment qu'on salue les femmes qui osent parler, qui osent être debout devant une cour d'assises avec à notre gauche, notre bourreau, et qui ose raconter ce qui leur est arrivé. Voilà, excusez-moi.
Je vous en prie.
Et ça a été, ouais, non, elles m'ont tout de suite suivie, elles ont été dans la difficulté parce que je suis venue ouvrir leur boîte de Pandore qu'elles n'avaient pas forcément prévu d'ouvrir. C'est une boîte de Pandore comme ça, c'est un vertige faramineux. D'un seul coup, on se dit, ma vie, en fait, repose sur quelque chose de... C'est des sables mouvants, oui. En fait. Et c'est très difficile. Et c'est vrai qu'elles ont été courageuses parce qu'elles n'ont... Elles ont accepté d'ouvrir leur boîte de Pandore à ma demande. Et ça, franchement, je leur dis merci. Voilà.
Alors, elles vous ont rejoint, ces victimes?
Oui, elles m'ont rejoint, ouais.
Quand l'affaire a-t-elle été instruite? À partir de quel moment? Parce qu'il y a, ouais. Il y a bien évidemment un passage où le procureur de la République se saisit et accepte d'instruire cette histoire. Là, les données changent parce que lui va obligatoirement être accusé, il va être interrogé. Comment est-ce qu'il il agit dans les premiers temps? Est-ce qu'il est sur une position à nier tout dans un premier temps ou est-ce que, comme certains prédateurs qui se font attraper à un moment, il sait que ça y est, il va tout droit à la condamnation? Comment s'est-il
Ma plainte, elle date de 2016. Hein, j'ai déposé plainte en 2016 et 9 mois après cette plainte, il a été placé en garde à vue.
Oui.
Au cours de cette garde à vue qui a duré 24 heures ou 48 heures, je ne sais plus exactement, il a nié formellement les faits jusqu'à ce que la commissaire en charge de l'enquête lui mette sous les yeux des lettres que j'avais mises à la disposition de la justice. C'était des lettres qu'il m'avait écrites dans lesquelles il avouait en fait tout le mal qu'il nous avait fait en s'excusant. Parce qu'il a toujours eu peur de tomber, il a toujours eu peur qu'un jour, notamment l'une de nous, qui s'appelle Coralie, parle, qu'elle parle et qu'il tombe. C'était ses termes. Il disait « j'ai peur de tomber ».
Oui.
Et moi, à cette époque-là, sous l'emprise totale, je lui disais « mais ne t'inquiète pas, je te protégerai, je dirai que ce n'est pas vrai ». Donc c'est dingue, hein. C'est vrai, l'emprise est énorme. Et donc il a réagi en niant formellement, jusqu'à ses lettres, où il a fini par dire « bon, c'est vrai que j'ai pas eu un comportement tout à fait adapté avec Coralie, mais les autres, elles étaient consentantes. La preuve, Alba était ma femme, Sarah, on a été ensemble pendant 6 ans. Enfin voilà, il a trouvé des excuses pour toutes les autres. Il a juste accepté, on va dire, de reconnaître qu'il n'avait pas une attitude adaptée avec Coralie. 12 ans qu'il a violé contre un arbre. Voilà, je vais quand même le dire parce que c'est violent ce que je vous dis, mais c'est vrai. C'est une gamine de 12 ans qui ressemblait à un bébé qu'il a violé contre un arbre. Voilà. Et à plusieurs reprises. Donc, cet homme n'a pas reconnu les faits. Ensuite, il a été libéré.
Oui.
Après sa garde à vue. Il a été libéré et il a plutôt... Moi, je dirais qu'il a plutôt fanfaronné en disant que son ex-femme jalouse... avait porté plainte contre lui et que j'avais monté toute une mascarade autour de faits finalement pas bien graves, même s'il reconnaissait qu'il n'avait pas toujours eu la juste attitude en tant que moniteur d'équitation avec certaines de ses victimes. Mais il m'a fait passer clairement pour une menteuse affabulatrice. Hein. Et beaucoup des gens que j'ai connus à l'époque l'ont écouté et m'ont mise à l'écart. Et ne m'ont pas soutenue. Ils ne nous ont pas soutenues. Et ça a été très, très difficile parce que j'ai tourné le dos à ma vie, à mes 10 ans de vie, à mes 10 ans d'amitié, à mes 10 ans de vie, quoi. Et ça n'a pas été facile ni pour moi, ni pour personne, enfin, aucune des autres victimes. Et au procès, dans son attitude, ça a été à peu près la même chose. Il n'y a jamais eu de reconnaissance d'agression sexuelle ni de viol. Il n'a jamais voulu reconnaître qu'il nous avait violés.
C'est quand même,
à aucun moment.
Oui, c'est terrible. Il n'a jamais rien reconnu.
Il a dit qu'il a eu un comportement inapproprié. Le procès, c'était l'année dernière, c'était en 2021.
Oui.
Ça a duré 3 jours. C'est 3 jours énormes, c'est très long, c'est très dur.
Oui.
C'est un ring monstrueux, une cour d'assises. Et on a eu un homme qui ne nous a pas demandé pardon, qui n'a pas reconnu nos viols, qui a menti,
qui a eu l'attitude d'un,
ça a été très, d'un,
d'un prédateur et qui, ouais. qui se croit ouais. dans le pouvoir total, dans son droit. Et qui a le droit de cuissage sur ses élèves. On va marquer une pause et on va continuer de vous écouter. L'info arrive à grands pas sur Europe 1 et puis on se retrouve juste après, d'accord ?
Très bien, à tout de suite.
Alba.
Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Trois heures passées de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, comme Caroline qui nous écrit ce soir, moi aussi, victime de mon professeur de gymnastique à l'âge de 13 ans. Je ne m'en suis jamais remis, j'ai aujourd'hui 34 ans. On entend à travers ce message hein, de Caroline Alba combien ces agressions, en fait, lorsqu'elles ne sont pas amenées, mises au grand jour, hein, on peut les traîner longtemps, d'où l'importance de ce procès, d'où l'importance de libérer la parole, comme vous l'avez fait. Ça s'est soldé par quoi, ce procès ? Il a été condamné ?
Alors en fait, la justice a été exceptionnelle et je remercie vraiment le système français parce que je les ai trouvés, ils ont apporté la réponse dont on avait besoin. Ils nous ont écoutés et il a été condamné à 13 années de réclusion criminelle avec une obligation de soins et un suivi socio-judiciaire de 5 ans et de 10 ans d'interdiction d'exercer auprès de mineurs à sa sortie de prison. Voilà,
ce qui est lourd, hein. il a ramassé, hein. C'est bien.
Il a ramassé, mais sachez, enfin, l'avocate générale nous a signifié le fait qu'elle n'était pas du tout contente du verdict parce qu'elle avait demandé 18 ans de réclusion criminelle.
Oui.
Et en fait, on lui a fait comprendre que nous, victimes, on en avait assez. Et qu'on n'aurait pas été capable de retourner encore une fois devant un jury pour recommencer.
En appel.
Donc, en appel, parce qu'elle aurait pu faire appel, l'avocat général, en fait, qui défend la société hein, face à ce genre de personnes.
Ouais, ouais.
Et pour nous, ces 13 années, c'était déjà c'était suffisant, c'était une reconnaissance. On a toutes été reconnues victimes, toutes, sans nuance aucune.
Oui.
Sans nuance aucune, que ça ait duré un an ou 10 ans, on a été reconnus victimes par la justice et on a été écoutés avec bienveillance et vraiment là-dessus je suis fière de notre justice française.
Alors j'ai un dernier texto que j'ai reçu, il est écrit par Nathalie qui nous dit au 739-21 et à qui je vais me permettre de répondre, Alba, et vous pourrez ensuite aussi répondre. Peut-on m'expliquer comment on peut dire qu'on a été violé par l'homme dont on était follement amoureuse et qu'on a épousé ? Eh bien, ma chère Nathalie, et c'est un homme qui vous répond, et non Alba, la victime, je vais juste vous expliquer que lorsqu'on a 15 ans, que lorsqu'on vit la violence d'une agression comme celle-là, que l'on ne sait pas ce que c'est que le sexe, que l'on ne sait pas ce que c'est que l'échange comme ça amoureux, et que tout ça passe par la violence, par qu'on force l'autre, qu'on le contraint, avec en plus ce statut d'adulte qui a l'autorité et qui est censé avoir le savoir, mais être aussi celui qui, dans la société, doit nous protéger. Protéger parce qu'il est l'éducateur, protéger dans le cadre de ses fonctions d'éducateur et qu'il se passe ça, ma chère Nathalie, vous paraissez très étonnée puisque vous mettez 4 points de suspension, enfin 4 points d'interrogation en guise de points de suspension. Mais oui, on peut avoir la tête qui tourne dans le mauvais sens et qui peut faire que tout à coup, on peut tout confondre et ne plus rien comprendre. Et surtout, oui, penser que on est amoureuse de celui qui a pris avec force ce qu'il y avait à prendre. Et ça s'appelle l'emprise, Nathalie. Ouais. Et je vous encourage à lire des livres sur l'emprise et vous verrez que l'histoire d'Alba, elle se multiplie sous tout un tas de formes. Mais voilà, je tenais à répondre moi-même, Alba, parce que, parce que ça me semble toujours très facile, là, ce genre de jugement comme ça, à l'emporte-pièce. Alors que bon...
Je comprends son jugement.
Cette question,
moi, j'aimerais...
Elle a dû vous être posée pendant le jugement, de toute façon.
J'aimerais, si c'est possible, y répondre en lisant
bien
un
évidemment.
Petit extrait de ce que j'ai écrit, parce que je pense que ça va, ça va répondre à sa question. Est-ce que vous m'autorisez à lire un petit extrait
bien
de ce que j'ai écrit ?
Bien évidemment.
Après chaque concours, lorsque nous revenions au club, il fallait ranger les affaires, s'occuper des chevaux et nettoyer le camion. Chaque cavalier faisait sa part avant de quitter le centre équestre. Ce jour-là, Sébastien a profité de ce moment pour passer à l'action. J'étais devenue sa marionnette. Dans mon esprit d'enfant, je devais assumer de m'être laissée entraîner vers ces événements. J'étais coupable de ne pas avoir écouté mes parents et respecté les valeurs que l'on m'avait transmises. En descendant du camion, lorsque Sébastien me croise, il me dit discrètement « Rejoins-moi dans la sellerie du bas dans 2 minutes ». C'était un ordre, pas une proposition. J'étais prise au piège. Je ne pouvais pas lui dire « Non, je ne viendrai pas ». J'aurais payé le prix d'un rejet de sa part, puis de celui de mes amis. J'aurais dû renoncer à cette place. Pour une fois dans ma vie, je pensais m'être construite à un monde à moi et y avoir une vraie identité. Je me sentais exister, enfin. Je ne pouvais pas tout détruire. Ne pas descendre aurait été comme marquer la fin de ce qui me tenait le plus à cœur, le cheval, mes amis et tout simplement ce que je pensais être ma vie. Je suis descendue. Les choses se sont déroulées dans la sellerie des Shetland, une toute petite pièce en partie vitrée, juste à côté des stabulations dans lesquelles se trouvaient les poneys. Le bâtiment était vieux et plutôt sale. Je me souviens de l'odeur du cuir mêlée à celle du purin. L'endroit était risqué pour s'adonner à ce genre de choses, car n'importe qui aurait pu nous surprendre. Mais personne n'est venu, malheureusement. Le danger a certainement dû accélérer la pulsion de Sébastien, puisqu'il n'a pas attendu quelques secondes pour m'attraper fermement, me placer dos à lui, debout, baisser mon pantalon de cheval jusqu'au niveau de mes genoux, à peine suffisamment pour qu'il parvienne à m'écarter de quelques centimètres les deux jambes. Je n'ai absolument pas le temps de réaliser ce qu'il est en train de faire. Je suis tétanisée, j'ai peur, je suis pétrifiée. Au point d'être incapable de bouger, en l'espace d'une seconde, il me pénètre, il me transperce. Je suis debout, dos à lui, les jambes presque serrées. La douleur est violente et me remonte jusque dans la gorge. Je voudrais crier, lui dire d'arrêter. Mais je suis bloquée, complètement crispée comme le serait un corps mort. Je réussis quand même à plusieurs reprises à lui dire que j'ai mal. Il n'arrête pas, il insiste, il me dit de me taire. Il veut rentrer en moi pour de vrai. Son sexe est trop gros et le mien est trop petit. Dans cette position, il n'y arrivera qu'à moitié, pris par le temps et le risque d'être surpris. Je ne me souviens plus comment il a terminé son plaisir. Je me souviens juste de la précipitation qu'il a mise à quitter ce lieu après ça. Toujours ces moments de lucidité au cours desquels il réalisait le risque qu'il courait si on le découvrait dans une telle situation. Sébastien avait trop à perdre. Il ne craignait pas le mal qu'il nous infligeait à nous. Il redoutait, je le sais maintenant, que quelqu'un le dénonce et qu'on l'arrête. Personne ne devait savoir qui il était, mis à part ses victimes mutées dans un silence honteux. Nous sommes un dimanche soir, un retour de concours. Je ne sais plus mes résultats sportifs, mais je me souviens très bien, par contre, que ce jour-là, j'ai perdu ma virginité dans la violence, la force, la peur, la douleur et la saleté. À partir de là, je ne suis plus dans mon corps. Je l'ai quitté au moment où l'insoutenable m'arrivait. Je suis une dissociée. Voilà.
Et j'ai envie de rajouter que non seulement vous quittez votre corps, mais que ce corps que vous laissez là, il en prend possession, il se l'approprie.
C'est ça.
Et c'est là toute l'emprise qui s'est jouée dès ce moment-là, en fait.
C'est exactement ça.
Pour répondre à votre question, Nathalie. Il est donc en prison aujourd'hui ?
Oui, il y est depuis 3 ans.
Depuis 3 ans.
Il y a été mis en avant le procès.
D'accord.
En préventive, ouais.
Qu'est-ce que cette décision, en fait, a provoqué chez vous toutes, en fait ? Est-ce que elle a été égale chez vous toutes ? Est-ce que vous sentez avoir été réunies dans un sentiment de justice, bien évidemment, car même s'il n'a pas demandé pardon et s'il n'a jamais reconnu ses agressions, c'est la société entière qui vous reconnaissait comme victime.
Oui.
Est-ce que ça a été plus fort que tout le reste, en fait ? Et surtout de son attitude à lui ?
Oui, ça a été plus fort que son attitude à lui, c'est certain. Plus fort que tout le reste, peut-être pas, parce que les marques que laisse tout ça, toutes ces années, tous ces mois pour certaines, mais même, enfin, quelle que soit la durée de l'épreuve, ces marques, elles sont indélébiles. Et la justice nous a aidés à les raccommoder et à nous donner un peu de souffle dans nos vies. Ça, c'est important parce que vivre avec ça, même après tout ça, après ce chemin de justice, ce chemin de résilience aussi, parce que j'en suis à ça aujourd'hui, j'espère.
Oui.
Il faut réussir à trouver la paix avec soi-même et même peut-être la paix avec que m'a fait cet homme. Moi aujourd'hui, ce que je veux vraiment dire, et je l'ai dit devant la cour d'assises et je le redirai et je veux vraiment le dire, c'est qu'il n'y a jamais eu d'esprit de vengeance. Je voulais juste qu'on nous rende justice. Et que la honte change de côté, parce qu'on a eu honte, parce qu'on a eu peur, parce que Coralie, Marie, Alice, Sarah et moi, on était honteuses pratiquement. On a porté la honte et la culpabilité pendant des années. Et la justice a remis la honte et la culpabilité du juste côté. Et ça, pour des victimes, c'est exceptionnel. Et c'était très important dans notre parcours de guérison. Qui est encore long et qui n'est pas terminé. Parce que ce n'est pas un procès qui termine une guérison sur ce type de blessure.
Est-ce que vous pouvez dire que votre reconstruction a débuté de manière significative à partir du moment où cette peine a été prononcée ? Vous l'aviez sans doute entamée avant, avec la naissance de votre premier enfant, la rencontre avec celui qui partage votre vie aujourd'hui. Mais est-ce que ce passage de justice et cette condamnation et le fait qu'il soit puni et que la société le punisse, que la justice le punisse, est-ce que vous avez senti qu'à partir de ce moment-là, vous pouviez vous reconstruire ?
Vous l'avez bien senti, vous l'avez bien senti, c'est vraiment ça. C'est comme si d'un seul coup, je pouvais maintenant m'occuper de moi. Je me suis battue, mais je crois que je me suis battue pour moi, pour les autres, pour les futures victimes, pour toutes celles qui ont été victimes et qui n'ont pas parlé, parce qu'on n'était pas que 5. Hein. Il y en a eu d'autres qui n'ont pas pu être entendues parce qu'il y avait prescription, d'autres parce que voilà, il y a eu vice de procédure ou plein de choses, enfin... Il y a des victimes qui sont encore sous emprise. Et je pense, oui, que cette décision, c'est maintenant, c'est à moi de me reconstruire. Maintenant, je peux débuter mon chemin de reconstruction. Je peux laisser mon corps endurer, s'exprimer. Parce que aujourd'hui, j'ai des souffrances corporelles que je n'ai jamais vues.
Liées à tout ça.
Ouais, j'ai des souffrances corporelles et je crois que mon corps n'a jamais laissé ces souffrances arriver avant que j'ai fini mon combat. Il m'a laissé combattre et ensuite il s'est un peu écroulé. C'est dur, mais je sais que ça va aller, je sais que ça ira parce que parce que la vie elle est toujours plus forte et que j'ai en moi cette envie de vivre exceptionnelle et que toutes les victimes qui étaient à mes côtés elles ont aussi et on va s'en sortir, mais en tout cas il faut vraiment savoir que ce type de personne ça laisse des traces indélébiles sur le corps, sur l'esprit et sur l'âme d'une personne et c'est pour ça que je parle, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre Dissocié aux éditions de Londe, parce que j'avais besoin que la parole soit libérée, j'ai besoin qu'on entende le témoignage de toutes ces petites cavalières, de toutes ces petites sportives et sportifs et mineurs qui dénoncent. J'ai besoin d'interpeller aussi les fédérations sportives, hein, parce que moi, la Fédération française d'équitation, c'était silence radio. Ils étaient au courant, bien évidemment, mais ils ne nous ont pas soutenus, ils n'ont pas été partie civile au procès d'assises. Ça aurait dû être leur place.
Un grand classique des fédérations sportives.
Voilà.
Jusqu'au moment où elles sont amenées là, et que les preuves sont là, et qu'elles ont le nez dedans, voilà, réagissent pour certaines d'entre elles. Mais enfin, visiblement, la Fédération française d'équitation, même avec tout ça, n'a toujours pas réagi à ce jour.
Je suis en colère contre la Fédération française d'équitation parce que leur rôle, ça aurait été de venir au procès, d'être partie civile à nos côtés.
D'être partie civile, c'est, voilà, ouais. c'était, vous avez raison, c'était une, ça aurait été une présence et une représentation majeure pour toutes les petites cavalières, les petits sportifs, comme vous dites, les petites sportives, et toutes ces femmes qui, comme Mamie Tam Tam ce soir, nous écrit au 739-21 « Bonsoir, j'ai été mariée et mon mari m'a régulièrement violée pendant des années. J'étais sous emprise et personne ne peut comprendre tant que cela n'a pas été vécu. Bravo à Alba de témoigner et elle vous embrasse. » C'est aussi la parole de ces femmes aujourd'hui plus âgées, hein, plus d'autres générations qui, elles, n'avaient été dans une époque où on ne parlait pas, où on ne pouvait pas crier au secours, où on ne pouvait pas évoquer toutes ces choses-là.
Tout à fait. Et ce qu'il y a d'important aussi à comprendre, c'est que on peut remettre en question les parents aussi dans tout ça, parce qu'on dit, voilà, les parents, pourquoi ils n'ont pas réagi, pourquoi. Mais en fait, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui se dit aujourd'hui, toute cette libération de la parole qui est arrivée récemment. Et en fait, mon travail aussi, ce que je veux faire là, c'est prévenir les parents et expliquer les rouages de la manipulation chez les adolescents, surtout dans le sport. C'est vraiment ma volonté, parce que mes parents, moi, par exemple, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ce qu'ils devaient, mais pas suffisamment, parce que finalement ils ne savaient pas.
Mais parce que des parents, si leur enfant ne leur parle pas, un papa ou une maman pense que si on fait du mal à son petit ou sa petite, eh bien le petit ou la petite qui est peut-être moyenne ou grande va parler. Et si elle ne parle pas, ça entretient une posture les parents ne peuvent pas deviner ce genre de choses, d'autant plus que souvent elles sont cachées, ces choses-là, ou en tout cas les victimes essaient d'épargner les parents, en fait. Il y a souvent aussi ce réflexe.
C'est clairement ça, ouais, clairement.
Ben oui.
Et puis la honte, annoncer à ses parents qu'on s'est laissé faire ça alors qu'ils nous avaient prévenus. Moi, j'étais dans une famille chrétienne, j'ai été élevée vraiment dans cet esprit-là, et pour moi, dire à mes parents il s'est passé ça dans la sellerie du bas et dans le vent, il s'est passé ça, c'était pas possible.
C'était
l'horreur. Et puis il fallait que j'assume, en fait. Il fallait que j'assume jusqu'à m'être fait violer, en fait. Il fallait que j'assume, et j'ai assumé. Mais je me suis protégée, hein. C'était ma manière de me protéger, parce que je pense qu'à 15 ans, 15-16 ans, se faire violer lors de son premier rapport sexuel, c'est ingérable psychiquement. Et que je pense que j'ai mis en place un mécanisme de défense aussi pour me protéger, parce que je ne sais pas comment j'aurais pu survivre à ça, en fait.
Oui.
Et finalement, voilà, c'était un mécanisme de défense, comme l'amnésie le traumatique de certaines victimes dans ce genre de cas.
Votre voix, Alba, ce soir, résonne comme d'autres voix ont résonné ces dernières années, et comme d'autres voix résonneront dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir. Car bien évidemment, plus que jamais, vous qui nous écoutez, si vous vivez des situations comme celle-là, voyez combien parler, oser parler, provoque tout de suite une chaîne, je dirais, de main tendue, de protection et d'accompagnement aussi, parce que parler libère. Et qu'il n'y a que, il n'y a que cette solution-là et que cette voie-là lorsqu'on est victime de prédateurs comme... comme vous avez pu affronter Alba. Merci mille fois. Votre, je le rappelle, votre livre s'appelle Dissocier, une adolescente sous l'emprise d'un prédateur sexuel aux éditions de Londres. On mettra bien évidemment les coordonnées de ce livre et de l'éditeur sur notre groupe de parole Facebook.
Très bien.
Merci pour votre courage. Et puis,
c'est moi qui vous remercie.
Et puis bon courage pour ce que vous avez à affronter encore, la reconstruction. Et, mais je ne doute pas qu'avec la force que vous dégagez, vous allez y arriver. Combien avez-vous d'enfants aujourd'hui ?
J'ai deux garçons, un de 9 ans et un de quelques mois, qui sont extraordinaires et qui me donnent l'envie de vivre et de profiter. Ouais. Et un mari formidable aussi, parce que c'est quand même exceptionnel d'être soutenue par son mari.
Que des garçons.
Voilà.
Que des garçons. Que des,
ouais, je suis leur princesse, c'est leur reine.
Mais oui, parce
je
que
mérite.
Ça existe aussi, je le rappelle aussi à tous ceux qui nous écoutent, des garçons bien et des garçons... qui aiment les femmes et qui aiment choyer les femmes. Il y en a beaucoup encore.
Il y en a énormément.
On vous embrasse, Alba.
Merci. Et puis, merci vraiment pour votre écoute et votre bienveillance.
Je vous en prie. Bonne nuit.
Soirée.
Au revoir. Bonne soirée.
Au revoir.